Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
La guerre n'est pas une aventure, c'est une maladie comme le typhus. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait ça dans Pilote de guerre. Cela a été vrai aussi pour la guerre d'Espagne. Non, ce n'était pas une aventure romantique. Pourtant, beaucoup d'intellectuels, de grands écrivains et étrangers s'y engagèrent, comme la philosophe Simone Veil, André Malraux, Hemingway, Orwell, Ehrenbourg et bien d'autres encore. Peut-être avaient-ils le goût de l'aventure, mais c'était surtout des hommes capables de pressentir que le principal danger des allaitantes serait la montée menaçante du nazisme. La guerre d'Espagne fut donc aussi une maladie. À travers l'histoire d'un ancien séminariste, c'est toute l'horreur de cette guerre civile, guerre fratricide, née de la misère extrême, des inégalités sociales criantes et de l'absence de liberté qui nous est décrite dans ce roman intitulé « Aucune terre ne sera mienne » paru aux éditions Cairn. Et je suis heureuse de recevoir son auteur, Sylvie Anaori. Oui, Sylvie Anaori, bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors si vous permettez, je vais vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes enseignante, certifiée en lettres modernes. Vous avez fait des études en histoire de l'art à l'école du Louvre, à Paris 4, Sorbonne, en histoire à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, maintenant Jean Jaurès, et en anthropologie. Et est-ce que c'est en tant qu'historienne que vous êtes intéressée à cette période de l'histoire d'Espagne ?
Alors, ma formation d'historienne a certainement été pour quelque chose dans cet intérêt, mais c'est un intérêt beaucoup plus personnel. J'ai même envie de dire beaucoup plus intime.
Alors, cela voudrait dire peut-être que vous avez des ascendants espagnols.
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, en 2001, Javier Cercas, qui est reçu ici pour son roman Les soldats de Salamine, fut un des premiers écrivains espagnols, je crois, sinon le premier, à parler de la guerre d'Espagne, à parler justement, à oser parler de ce qui s'est passé dans les familles même. Il s'agissait d'un roman inspiré d'une histoire vraie, tout comme l'histoire que vous racontez s'est inspirée d'une histoire vraie.
Oui, absolument. Alors, pour revenir sur le livre de Cercas, c'est vrai que les Espagnols se sont intéressés du point de vue historique et de la fiction, je dirais, assez récemment à leur propre histoire. Chez les Français, qui sont pour certains des descendants de réfugiés espagnols, je pense que ça a été fait un petit peu avant. Alors oui, il est vrai que cette histoire me touche de près puisque j'ai rencontré cette personne qui inspirait le héros de mon roman et que j'ai appelé dans le roman Paco, mais qui ne s'appelait pas Paco dans sa vraie vie.
Voilà, vous donnez son nom ultérieurement, mais dans le fond, peu importe le nom pour nous. En tout cas, c'est cette histoire. Mais je pense quand même qu'un siècle, quasiment un siècle après la guerre, cette guerre civile, et comme toute guerre civile, c'est une guerre fratricide, cette parole qui se libère enfin, ça permet d'amorcer une réconciliation au sein des familles, au sein des institutions, non ? On y arrive ou pas ?
Alors, peut-être plus facilement en France qu'en Espagne. Il me semble qu'en Espagne, il y a encore un tabou sur cette guerre d'Espagne. Ce sont les nouvelles générations qui en parlent, pas les gens qui ont vécu ces événements, ni de façon directe, ni même leurs enfants. Et c'est plutôt une histoire des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants qui s'y intéressent. Et cette parole est très longue et très difficile à libérer. Je pense que la guerre d'Espagne, certains disent qu'elle n'est toujours pas finie.
Oui, disons qu'elle a créé des blessures, des cicatrices indélébiles.
Oui, au sein des familles et au sein même d'une société. Oui. Quand aujourd'hui en Espagne, on retrouve par hasard ou pas d'ailleurs, des fosses ou des charniers dans lesquels on a trouvé des personnes qui ont été inhumées comme ça à la va-vite, ça pose toujours de très très gros problèmes aux
autorités.
Ravive. Oui, absolument. Et ça ravive.
Oui.
Et ça ravive.
Oui. Votre ouvrage commence par une lettre, puis le journal une lettre envoyée à un dénommé François, et le journal ensuite de son grand-père, du grand-père de François, Francesco Autin, dit Paco. Alors, je ne sais pas si on dit Autin en espagnol, ça ne doit pas être ça.
Autin,
j'imagine. L'idée de départ, est-ce que c'est un film qui serait fait par le petit-fils ?
Voilà, alors l'idée de départ, c'est que le jeune homme François, ça se passe au milieu des années 90, François veut tourner un film qui s'inspirerait en grande partie de la vie de son grand-père. Et pour ce faire, il va l'interroger. Francisco, dit Paco dans le livre, est un petit peu surpris, un petit peu étonné. Il ne pensait pas qu'un jour son petit-fils s'intéresserait à cette histoire-là. Et il lui dit, je vais te la raconter. Et en plus, je vais te donner les documents qui sont à ma disposition, c'est-à-dire les mémoires, le journal pardon, qu'il a écrit en temps réel, ou plutôt les feuillets qui ont été conservés. Et il adjoindra par la suite ce que j'ai appelé les chapitres que j'ai intitulés « Mémoires », c'est-à-dire des textes écrits 60 ans après les événements. Il donne tout ça donc à son petit-fils, qui en plus se rendra sur les lieux pour peaufiner son scénario et pouvoir tourner ce film.
Oui, alors du coup, votre roman est composé d'extraits de journal tenus par Paco, qui alternent avec une sorte de récit, commentaire, et parfois même de commentaire du petit-fils.
Oui.
Voilà. Oui, alors donc il y a une variété. Ce récit qui est ajouté au journal, ça vous permet de préciser ?
Oui, alors en fait, y a les mémoires de Paco qui sont écrites hein, donc 60 ans après les événements, avec un recul du vieil homme par rapport à ces événements, par rapport aussi à sa propre vie, à son propre vécu, par rapport à l'histoire, et le journal qui a été écrit en temps réel dans les années 30 jusqu'en 1939, au moment où il va quitter l'Espagne pour venir se réfugier en France.
Alors, ça se passe du côté de Huesca, en Aragon. Pouvez-vous nous parler un peu de l'Aragon dans les années 30 ? Je pense que l'Espagne était quand même un pays pauvre globalement, mais là, l'Aragon particulièrement, non ?
Oui, alors c'est vraiment à nuancer parce que il y avait des propriétaires des latifondières qui étaient d'une très très grande richesse. Alors ça, c'est plutôt vrai dans le sud de l'Espagne, notamment en Andalousie. Mais c'est vrai aussi dans le nord, c'est-à-dire qu'on a une population qui est extrêmement contrastée. La moitié de la population ne sait ni lire ni écrire. Une autre partie, mais elle est infime, possède d'immenses richesses. Et la plupart des gens vivent dans des conditions absolument misérables, notamment en Aragon, puisqu'il en est question dans le livre.
Les paysans ne possèdent même pas la terre.
Voilà, les paysans sont des journaliers agricoles, ils ne possèdent pas leur terre, ou alors un minuscule lopin, et là, ils s'estiment extrêmement heureux d'avoir ce petit lopin pour nourrir une famille souvent assez nombreuse. Et donc, il faut survivre. On est toujours dans cette idée de la survie. Qui plus est, dans cette région de l'Aragon, c'est une région qui, dans les années 20 et jusqu'au début des années 30, est une région extrêmement sèche et aride.
Et froide l'hiver.
Et très froide l'hiver, oui, puisque on est au bord des contreforts pyrénéens, donc il fait effectivement très froid en hiver. Au début des années 30, la situation va un petit peu changer, puisqu'on va faire un grand canal. Et ce canal va permettre d'irriguer les terres et donc d'augmenter la productivité des cultures céréalières notamment.
Mais est-ce que ça enrichit pour ça les familles ?
Alors, ça enrichit les familles riches.
Oui, voilà. Oui, donc le problème reste intact, peut-être ?
Alors, ça enrichit les familles riches qui vont faire parfois même plusieurs récoltes, parfois deux récoltes de blé dans l'année. Alors, d'une certaine façon, ça va aussi quand même enrichir et les ouvriers qui vont travailler à la construction de ce canal, hein, le canal de Monegros, qui va irriguer toute la plaine de Huesca jusqu'à Almudévar et même un petit peu plus loin. Ça va aussi un petit peu enrichir, c'est un bien gros mot, mais améliorer plutôt la situation de ces journaliers agricoles qui auront du travail un petit peu plus souvent. Et cette irrigation va permettre quand même une...
de rendre la terre plus fertile.
Voilà, absolument.
D'accord. Alors, vous parliez de familles nombreuses. Nous, Paco, que nous allons suivre tout au cours de votre roman, est issu d'une famille nombreuse. Et il est doué, visiblement, il est doué. Et comme tel, ce qu'on a vu aussi dans les familles françaises à une certaine époque, on va décider de l'orienter vers le séminaire. Et il n'a que 5 ans.
Absolument. Donc, il a une tante qui est également sa marraine, qui est religieuse, et on va envoyer Paco au séminaire de la ville voisine, donc la ville de Huesca, au petit séminaire d'abord, pour qu'il puisse avoir une bonne éducation, une culture. Et on verra tout au long du livre que oui, ce sera un homme extrêmement cultivé. Et par ailleurs, ce sera aussi une bouche de moins à nourrir pour cette famille extrêmement pauvre, puisque Paco, dans le texte, naît autour des années 1917.
Voilà, on imagine ce petit bonhomme de 5 ans, comme on a vu cela en France aussi, où on éloignait les enfants de 5 ans, donc loin de sa mère. Et il a également un talent, il a une très belle voix. Alors j'aimerais, Sylvie Anaori, que vous nous lisiez un extrait qui parle justement de ce chant qui va le porter à un moment donné, qui va le porter près de sa mère. Il en oublie sa condition de jeune pensionnaire. Il va se retrouver, il va chanter d'une voix merveilleuse. Alors donc, il se met à chanter et il oublie tout ce qui l'entoure.
Un matin du mois d'octobre, comme tous les autres matins, il fallut se lever pour chanter au Christ toute sa ferveur. Paco n'en avait aucune envie, au diable la mystique, et plutôt rester dans la tiédeur du lit. Il se prépara néanmoins et traversa la brume du cloître pour rejoindre la porte latérale de l'église. Il se dirigea vers la chapelle des enfants en évitant soigneusement de croiser le regard maléfique des miséricordes relevées. Tous les séminaristes participaient au premier chant. Chacun tenait son rang, y compris les enfants dirigés par un chanoine. Trop jeune pour lire les partitions, il retenait texte et rythme, puis s'accordait à l'ensemble des séminaristes. La chapelle d'à côté était réservée aux voix d'anges, celle des garçons âgés de 8 à 15 ans. Après la mue, les anges devenaient des hommes. Ils s'installaient alors dans la nef ou partaient vers le grand séminaire. Paco les enviait lorsqu'ils entonnaient un à un, en canon, puis tous ensemble, les hosannas. Les chants revigoraient sa foi délaissée dans la chaleur du lit. Les enfants débutèrent. Paco s'appliquait à l'unisson avec les autres, comme un automate. Mais progressivement, sa voix s'éloigna du groupe, monta, devint plus puissante et s'éleva vers le cœur. Le chanoine observa l'enfant, voulut le détourner et le ramener dans le droit chemin, mais n'y parvint pas. Paco ne semblait pas le voir. Les autres continuaient sans vraiment se rendre compte. La deuxième chapelle devait relayer le chant. Les jeunes gens attendaient le signe du maître de chœur. Ils commencèrent. Mais alors que le petit chœur diminuait sa puissance vocale, Paco s'unit au groupe des anges. Il fixait la statue de la Vierge. Ses mains gardaient le souvenir du modelé du visage lorsque, la veille, il avait éprouvé tendresse et tristesse car elle lui rappelait sa mère. Il ne pouvait l'approcher depuis sa place, mais il la sentait, là, toute proche, ou plutôt il se sentait près d'elle, si près que, dans un songe, il crut être enlacé. Le chant emplissait l'église comme une nuée. Paco se leva comme l'enfant. Il oublia les convenances, il oublia pour raviver le souvenir de sa mère. Sa ferveur s'accrut lorsqu'il entama un Ave Maria. Les anges cessèrent de l'accompagner et l'écoutèrent comme l'ensemble du cœur. Paco ferma les yeux, seul dans les bras de sa mère qui lui manquait tant. Il avait chanté pour elle, pour qu'elle ne se noie pas dans l'oubli. Un chant rempli de larmes qui avait ému les hommes. On le laissa finir. Puis la liturgie reprit son cours.
Merci Sylvie Anaori pour avoir lu cet extrait. Donc on voit que Paco est porté par son chant, porté par l'amour de sa mère qui lui manque. Donc c'est la vie au séminaire, une vie faite d'études, faite d'un encadrement avec des horaires, évidemment, qui l'ont formé. À un moment donné, au cours du roman, vous dites que il dit, lui, qu'il ne peut pas abandonner tout ce qu'il a appris. Il est imprégné de certaines valeurs. Et on voit aussi que la famille lui manque, certes, mais il y a les amis qui prennent le relais.
Oui, alors effectivement, Paco, heureusement pour lui, va rencontrer d'autres jeunes gens de son âge, hein, qui ont certains un parcours similaire, d'autres pas tout à fait, qui sont au séminaire pour différentes raisons. Et c'est en nouant effectivement ces liens d'amitié qu'il va pouvoir retrouver en quelque sorte une famille de substitution.
Oui, et on verra ultérieurement que ses amis donc de séminaire auront des choix différents suivant souvent leur éducation ou leur origine sociale. Alors en fait, même ses liens avec la famille sont distendus, même avec ses frères, il a du mal quand il revient chez lui. Il n'y en a qu'un qu'on retrouvera plus tard, qui est assez rustre dans le fond, mais en même temps c'est un artiste, c'est Juan.
Oui, alors Juan c'est le premier frère de Paco, c'est le premier qui va arriver dans la fratrie. Hein. Paco est resté enfant unique pendant 6 ans. Et Juan ne connaît rien aux études, il a même beaucoup de mal à apprendre à lire et à écrire avec son frère aîné. Mais c'est un artiste, c'est un sculpteur, il aime le travail du bois et ensuite il deviendra un sculpteur assez reconnu dans sa région. Et il va lui arriver aussi d'autres aventures
pendant la
guerre.
Voilà. Alors, Sylvie Anaori, vous avez parlé des déséquilibres sociaux, de l'extrême richesse de certains, de l'extrême pauvreté de la plupart, et qui a perduré d'ailleurs assez tardivement, hein, à une époque même dans les années 50. Il y avait dans les campagnes, les villages étaient très pauvres, hein, pour beaucoup.
Oui, tout à fait, je pense. Qu'on peut même dire jusque dans les débuts, milieu des années 60.
Hein. Oui. Alors, la situation de l'Espagne dans les années 30, il y avait même, on constate ce déséquilibre social, mais déséquilibre régional également. Entre régions, ce n'est pas les mêmes comportements, les mêmes choix, les mêmes vies. Ça fait pas, il n'y a pas d'unité véritable, si. Est-ce qu'entre, par exemple, le Pays Basque et l'Andalousie, ou même du côté de Barcelone, la Catalogne, est-ce qu'il y a une unité de fonctionnement ?
Alors, non, pas tout à fait, parce que les cultures sont très différentes. Vous parlez du Pays Basque, on peut parler aussi des Asturies, ce sont des provinces du nord de l'Espagne qui sont très industrialisées, comme d'ailleurs une partie de la Catalogne, mais pas toute la Catalogne non plus. Hein. Quand on va vers les montagnes, là, il n'y a pas, absolument pas d'industrie. L'Andalousie, en revanche, au sud, est une région très agricole. On n'a pas la même façon la société est très différente, hein. Je pense qu'on peut pas comparer la société de Barcelone dans les années 30 avec la société andalouse ou même aragonaise dans les campagnes. Oui. C'est effectivement très différent.
Oui, voilà.
Ou même la Galice quand on va vers l'ouest.
Alors évidemment, il y a également un déséquilibre spirituel, ne le cachons pas. Il y a les grands pouvoirs de l'Église. Et également, de l'autre côté, un anticléricalisme militant. Ce grand pouvoir de l'Église auquel s'associent les milieux bourgeois. Mais dans l'anticléricalisme militant, il y avait aussi des bourgeois et des anarchistes.
Oui, absolument. Alors, je crois qu'il ne faut surtout pas faire de généralité. Disons que... cette Espagne est un petit peu... l'histoire de l'Espagne est complexe dans les années 20-30. On est passé du monarchisme à la République. Cette République est instaurée en 1931 avec un gouvernement plutôt de droite, avec une répression qui a été très très forte contre les ouvriers mineurs des Asturies en 1934. Et en février... C'est un gouvernement de gauche, hein, toujours la République, donc, qui s'appelle le Frente Popular. Un mois après, un mois et demi après, c'est le Front Populaire en France. Et c'est vrai qu'au moment où cette guerre va, enfin, où ce putsch militaire va arriver mi-juillet 1936, hein, il faut s'imaginer la géopolitique de l'Europe de l'Ouest à cette époque-là, où on a un pouvoir autoritaire au Portugal, avec Salazar, qui est arrivé en 1922 ou 24. 1928, en Italie, Mussolini. Oui. Et 1933, le chancelier Hitler, en Allemagne.
Oui.
Et donc, ça posera ensuite des questions sur que va-t-il se passer des interventions européennes en Espagne.
Oui, alors vous mentionnez voilà, ces grandes luttes idéologiques entre communisme, fascisme, libéralisme qui se déroulent en Europe et également les conséquences certainement de la crise économique mondiale qui débute en 1929.
Hein. Oui, alors je pense qu'il y a eu moins de conséquences dans des pays qui étaient déjà très pauvres finalement, comme l'Espagne ou le Portugal.
Mais il n'y a pas eu un effondrement aussi du commerce extérieur quand même ?
Je vais pas être affirmative, mais je pense qu'il y avait peu de commerce.
En tout cas, la guerre éclate, hein, voilà. Et donc, on va parler de cette révolution. Quand je dis la guerre, on dit révolution, oui. Mais en fait, maintenant, on dit la guerre d'Espagne, qui a marqué tous les esprits, bien sûr. Avant d'en parler, je vous propose une pause musicale et... Alors, vous avez choisi de Sainte-Colombe, le concert 44, Les Regrets, et dans Les Regrets, c'est la partie Les Pleurs. Et je crois qu'effectivement, on est en droit de pleurer à l'évocation de ce qui s'est passé.
D'auteur Monique Fauché.
Nous sommes en compagnie de Sylvie Anaori qui a écrit un ouvrage, un roman, mais pas forcément qu'un roman, puisque quand même il y a des éléments très vrais. Et puis vous êtes historienne et à plusieurs moments on se rend compte que vous parlez de faits historiques bien précis, que vous parlez d'art également, on pourra en dire un mot. Et dans cet ouvrage intitulé « Aucune terre donc ne sera mienne », édité chez Cairn. Alors, la guerre éclate, c'est comme une révolution. D'abord, on a parlé de révolution.
Oui, alors d'abord, on a parlé de révolution parce que... avant que Franco n'arrive en Espagne en juillet 36, plusieurs expérimentations ont été faites dans le nord de l'Espagne, notamment dans la province d'Aragon et aussi en Catalogne, sur des collectivisations de terres. Et la révolution, c'était l'idée que on pouvait supprimer toute idée de propriété. Et je pense que une bonne partie de ces mouvements qui plus tard ont été appelés mouvements anarchistes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun droit, ce sont des mouvements qui sont nés précisément en Catalogne et en Aragon, et notamment autour de la province de Huesca, où il y a encore aujourd'hui des gens qui en parlent, notamment dans le village d'Angues, qui est pas loin de Huesca.
D'accord. Alors. Ce que vous notez, c'est que, dans le fond, les jeunes séminaristes étaient enfermés, ils avaient leurs règles, leur mode de vie, c'était très encadré, ils travaillaient beaucoup, et ils n'étaient pas informés de ce qui se passait à l'extérieur, en final.
Non, en fait, ils vivent dans une ville, puisque le petit séminaire se trouvait dans la ville de Huesca, le grand séminaire aussi, d'ailleurs, mais un petit peu, pas vraiment au centre-ville. Et ces séminaristes vivaient quasiment en clôture. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas à l'extérieur, ou très très rarement, toujours encadrés de leurs maîtres, qui sont des prêtres, et ils ne savent pas ce qui se passe dans leur propre ville, sauf au moment où, durant l'été, le séminaire va fermer et où les enfants, ou les jeunes gens, vont rentrer chez eux dans leur famille.
Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'Église, le haut clergé, le Vatican même se sont mis du côté de Franco, on peut pas le nier. Ce qu'on disait hors antenne, c'est que chez nous, il y a de grands écrivains, il y a Georges Bernanos, il y a François Mauriac ou encore Jacques Maritain, tous les trois des grands écrivains catholiques qui furent censurés d'ailleurs et interdits sous Franco, parce que ils étaient hostiles à Franco. Et on peut dire donc que globalement l'Église était franquiste, mais il y a eu quand même des prêtres, il y a eu même des évêques qui se sont prononcés contre Franco.
Alors, en ce qui concerne les évêques, ils ont tous signé une lettre en faveur de Franco en 1937. En revanche, le bas clergé, le petit clergé, les prêtres, les curés de village, très souvent ont été du côté des républicains. Oui. Très souvent.
Là, simplement, j'ai l'expulsion d'Espagne de l'évêque de Vitoria, Monseigneur Mujica, qui lui a été expulsé. C'est peut-être le seul.
Je crois que c'est le seul. Oui. Celui de Vitoria, oui. Oui, mais je crois que c'est le seul. Hein. Oui. Parce qu'il y a une liste qui est terrifiante, qui apparaît d'ailleurs dans le livre « Pas pleurer » de Lady Salver, où il y a tous ces évêques de toutes les grandes villes espagnoles qui ont tous signé en 1937 leur accord par rapport au franquisme.
D'accord. Alors, sans vouloir minimiser le rôle de l'Église à ce moment-là, on peut dire quand même aussi qu'il y a eu beaucoup d'exactions faites également à l'égard des religieuses. Cette guerre a été horrible, on le sait, mais les religieux aussi, il y a eu beaucoup de prêtres qui ont été assassinés.
Oui, tout à fait. Alors, les exactions religieuses, elles ont commencé même très tôt, dès l'été 1936. En fait, je pense qu'il y a eu une espèce de soulèvement massif contre des oppressions qui duraient depuis des années et des années, qui étaient les oppressions des grands bourgeois et nobles, et aussi dues au clergé. Et c'est parti à volo. C'est ce qu'on a vu notamment à Barcelone, où un cimetière de religieuses a été profané par des républicains, des œuvres d'art aussi. Heureusement, on a pu en protéger.
800 églises
qui ont
rasées.
Été pillées, rasées, des ermitages. Oui.
Alors, ce que vous dites, en fait, c'était pas à l'égard forcément des personnes quand on parle de ces prêtres qui ont été tués, assassinés, mais c'était l'image même de l'Église, ce qu'elle représentait pour ces gens.
Oui, je pense que c'est plutôt ça. Oui.
Voilà.
Alors, ceci dit, il y a eu aussi des prêtres qui ont été assassinés, alors je dirais de manière tout à fait gratuite. D'autres, c'est toujours gratuit, mais d'autres qui ont été assassinés parce qu'ils avaient dénoncé aussi tel ou tel qui était républicain, qui était anarchiste ou qui était communiste et qui avait été assassiné aussi.
Oui. Et alors, on voit au sein des...
Il y a beaucoup de vengeance.
Oui, il y a beaucoup de vengeance aussi, oui. Et le conflit va... diviser le pays, les institutions,
les familles.
Les amis, même les frères. Il dit d'ailleurs, Paco dit, le conflit divise le pays, les amis et même les frères. Par exemple, J'aime et Paco, J'aime étant un ami de Paco au sein du séminaire, d'origine sociale différente, vont s'opposer politiquement.
Oui.
On va le voir systématiquement, peut-être pas systématiquement d'ailleurs, ce n'est pas le cas. Mais et Paco, lui, va changer. Qu'est-ce qui va se passer en lui ?
Alors, je pense que au moment où Paco, donc d'abord, Paco décide de ne pas prononcer ses vœux. C'est une affaire, je dirais, personnelle et intime.
Oui, ce n'était pas son choix.
Voilà, d'une part, ça n'était pas son choix, et que d'autre part, il a à de nombreuses reprises douté de sa foi. Donc, il décide de ne pas prononcer ses vœux, et ça coïncide avec le moment où le général Franco traverse l'Espagne, donc en juillet 1936. Il va falloir qu'il annonce ça à ses parents, ce qui n'est pas une mince affaire. À partir de ce moment-là, Paco va se ranger du côté des républicains, mais il ne connaît rien à l'histoire de son pays. Et c'est en allant dans des cafés, dans des bars, qu'il va rencontrer d'anciens amis séminaristes qui ont repris la vie civile, et d'autres personnes également, que là, il va apprendre finalement dans quelle situation se trouve son pays, et que tout à fait naturellement, par atavisme à sa propre famille, il va se ranger du côté des républicains, et plutôt du côté des anarcho-syndicalistes.
Oui. En disant, il faut que la terre appartienne à ceux qui la travaillent.
Absolument.
Alors, ce qu'il va découvrir dans ce groupe d'anarchistes qu'il fréquente, c'est une extrême pagaille et une grande inexpérience. Finalement.
Oui, alors je pense que là, je ne suis pas malheureusement dans le roman, mais plutôt dans quelque chose...
Dans la réalité des faits.
Oui, dans la réalité des faits. Ce qui s'est passé, c'est que dans le camp des républicains, comme d'ailleurs dans le camp franquiste, il y avait beaucoup de sous-groupes et tout le monde ne s'entendait pas forcément très très bien. Et au niveau du commandement, ça se passait très très mal. Au début... voilà, on part un petit peu la fleur au fusil pour combattre Franco et on pense que ça ne va durer que quelques jours ou quelques semaines. Et puis c'est une guerre qui va s'enliser pendant 2 ans et demi. Et les anarchistes ne s'entendent pas avec les communistes, mais ça ne va pas non plus avec les partisans de la CNT ou de la FAI.
Ou avec
les socialistes. Et il n'y a pas réellement de commandement commun. Et le gouvernement ne sait pas trop que faire d'ailleurs de tout ça. Et du côté franquiste, c'est d'ailleurs aussi un petit peu la même chose, mais il va y avoir à un moment une cohésion qui sera plus
facile peut-être.
Plus facile,
aussi.
Oui.
Oui, parce qu'il y a quand même le rôle également de l'Union soviétique qui envoie des gens pour perturber le fonctionnement, je crois, des révolutionnaires. Non, d'une certaine manière, ils ont éliminé le POUM déjà.
Alors, bien sûr, ils ont illuminé le POUM, ou enfin, ils veulent le mettre de côté. L'URSS sera le seul pays...
Envoyer des armes.
Pas envoyer des armes, parce que la France en envoie aussi, mais c'est le seul pays à intervenir en Espagne. On l'a dit tout à l'heure, la France pratiquera une politique de non-intervention, l'Angleterre aussi. Il semblerait d'ailleurs que ce soit Churchill qui a influencé Léon Blum pour que surtout on ne bouge pas côté espagnol. Et en fait, c'est l'URSS qui va prendre parti du côté espagnol et ce sont quasiment les seuls en Europe. Mmh. Sans oublier quand même, c'est 35 000 hommes et quelques femmes des brigades internationales. Oui. Mais là, c'est en dehors d'un gouvernement.
Tout à fait. Alors, donc, Paco a quitté le séminaire. Mais il conserve, il le dit, les valeurs qui lui ont été inculquées. Il reste marqué quand même par l'éducation qu'il a reçue. Oui. Et il peut être choqué à bien des moments de ce qui se passe.
Absolument. Alors, d'une part, il est choqué par rapport aux exactions qu'il voit commettre par ses compagnons. Et d'autre part, il ne renie pas, il ne veut pas renier toute cette éducation qu'il a reçue. Mais il sait très bien aussi que s'il en parle, il risque sa propre vie. Et il va rester extrêmement discret par rapport à sa propre éducation, alors que c'est quelqu'un qui est un lettré, qui parle le latin et l'italien couramment. Et voilà, oui. il doit rester discret, oui. Mais sans renier toute cette éducation religieuse qu'il a eue et qui fait partie de lui.
Oui. Alors, on n'aura pas le temps de tout dire, mais évidemment, à un moment donné, il parle des conditions de vie de ces combattants qui n'ont même pas de chaussures, pour la plupart, dans le froid. Ils ont faim, ils ont froid, ils sont harassés. Le froid terrible, à un moment donné, vous parlez ou faites parler Paco, ou peut-être c'est son journal, et on voit combien ça a été une guerre... Remarquez, bon, je ne sais pas.
Toutes les guerres.
Oui, c'est exactement, hein, toutes les guerres. Et sans expérience, mais comme il est instruit, il va se mettre à diriger un groupe de combattants. Voilà, et tour à tour, il va évoquer la violence, les exécutions sommaires, les enrôlements de force, les changements de camp, la dissimulation de charniers, les trahisons, enfin... Il y a tout ça dans une guerre, c'est une sale guerre finalement, mais en même temps, il y avait une cause qu'on peut comprendre, qu'on peut entendre.
Alors, je pense qu'on peut considérer que la cause était noble, c'est-à-dire de refuser un totalitarisme de plus en Europe.
Oui, oui, oui. Alors, il y a un passage qui est très dur selon moi, c'est quand Paco, pris par la peur, la colère, la haine... va tuer quelqu'un. Et dans un premier temps, je me suis dit, mais il n'a pas de remords. En fait, si, on va se voir que ce remords l'a rongé. Et c'est là aussi où on est confronté à ça. La violence, l'accumulation de la violence transforme tous les êtres, aussi purs soient-ils, en individus violents.
Oui, alors on est dans le cadre d'un roman et je pense que si on peut s'attacher au héros Paco parce que c'est un être bon, généreux et pur comme vous venez de le dire, c'est aussi au moment de la guerre un chef de guerre. Il est caporal du groupe de personnes qui l'encadrent et à un moment, oui, il devient fou de sommeil, de froid, de peur, et il commet des actes qui sont des actes de guerre.
Oui, et qui entacheront tout le reste de sa vie. Mais l'image optimiste pour moi de la fin de votre ouvrage, c'est quand même François, le petit-fils, qui comprend petit à petit, qui arrive à démêler cet écheveau, cet entrelac de noirceur, de violence, de haine et de désespoir, toutes ces familles. Et lui va finalement en faire quelque chose.
Alors, il en fait quelque chose et en même temps, il va quand même trahir son grand-père. Il va trahir certains secrets, puisqu'il dit qu'il va vouloir tourner certaines scènes alors que son grand-père lui a bien spécifié qu'il ne souhaitait pas qu'il fasse, qu'il monte ce projet cinématographique sur certains épisodes de sa vie.
Oui, mais alors peut-être qu'il a compris qu'en fait, de cacher les choses, ce n'est pas une bonne chose.
Alors je pense que c'est aussi tout le problème de cette guerre d'Espagne, c'est qu'effectivement, les protagonistes... notamment ceux qui se sont réfugiés, plus particulièrement en France. Il y a quand même 500 000 personnes qui sont arrivées en France en février 1939. Ce sont des gens qui ont très, très peu parlé, pour la plupart. On ne peut pas généraliser, mais la plupart ont très peu parlé, très peu témoigné.
Voilà un témoignage. Un grand merci, Sylvie Anaori. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de « Aucune terre ne sera mienne » aux éditions Cairn. Au revoir.
Merci.